Hein, l'enquête va démontrer exactement ce qui est arrivé, mais je répète, quand le CIUS est arrivé le 29 mars, presque tout le personnel était parti. Ça n'a pas de bon sens qu'on arrive dans un centre puis que la majorité du personnel soit parti. Là. Donc, je pense que ça regarde beaucoup comme de la grosse négligence. Là.
C'est les propos que le premier ministre François Legault a tenus hier en conférence de presse concernant cette histoire d'horreur. Au CHSLD, Heron, à Dorval, on poursuit la discussion avec Maître Paul Brunet, qui est président du Comité pour la protection des malades. Bonjour, Maître Brunet.
Bonjour, messieurs.
Votre première réaction à cette histoire-là hier?
Histoire d'horreur, hein? Il y en a quelques-unes à travers les années. Nous, ça fait 45 ans qu'on existe. On en a vu quelques-unes, mais celle d'hier est dure à avaler, surtout qu'il y avait déjà, comme vous l'avez dit vous-même, un rapport de la protectrice des citoyens qui était là-dessus depuis 2017. Un autre rapport d'inspection, parce qu'on a une équipe d'inspection, nous autres aussi, qui participe. Une inspection qui a eu lieu en mars 2019. Aucune recommandation appliquée ou suivie. On non plus. Alors, c'est un des cas les plus délinquants là, qu'on puisse observer.
Donc, c'est quoi le problème? C'est que il y a des autorités qui surveillent, qui font des rapports, qui envoient ça au ministère, puis après, c'est là que ça se perd. À partir de quel moment la chaîne est rompue, là, dans les gens qui constatent des choses épouvantables, puis que...
Il faudrait le demander au ministère. Hein? Je veux dire, pourquoi on n'exige pas, puis je veux dire, c'est pas le seul rapport là, qui fait pas l'objet de trop de suivi. Il y a des rapports d'évaluation des dizaines par année depuis 2003. Depuis, souvenez-vous, le suicide là, du directeur général de Saint-Charles-Borromée. C'est des inspections ministérielles qui avaient été mises en place. Et depuis ce temps-là, il y a bien des rapports, bien des recommandations qui n'ont pas été suivies, qui ont été traînées, qui ont été mises sur des tablettes. Alors, faut peut-être tirer l'oreille là, de celles et ceux qui sont responsables du suivi et allumer les alertes. Je dis pas que le drame et l'horreur dont M. Legault parlait hier là, est relié directement, mais tu sais, quand tu fais défaut puis tu es délinquant dans une affaire, ça se peut que tu sois dans d'autres affaires. Et on l'a vu hier.
Ben là, c'est parce qu'en plus, vous me dites que au Comité pour la protection des malades, vous avez fait des surveillances, fait des recommandations qui n'ont pas été... Ben, constaté que les recommandations n'étaient pas appliquées. La protectrice du citoyen l'a fait en 2017. Le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal achetait des lits. C'est ce qu'on disait avec Alexis avant la pause. Là. Il achetait, entre guillemets, là, des espaces pour envoyer des patients en résidence pour libérer des lits dans les hôpitaux. Donc, il y avait aussi, en théorie, un suivi qui était fait. Mais personne ne s'est rendu compte, à aucun niveau, qu'il y avait des individus qui ne recevaient pas les soins. Là. Parce que quand la ministre de la Santé, hier, dit que les CHSLD privés seront, et je la cite, « surveillés de très près », moi, j'essaie de ne pas être trop cynique, mais sincèrement, je trouve ça aberrant. Non.
Historiquement, là, c'est dur de toutes les suivre, je les comprends. Mais l'idée, tu sais, ça fait plusieurs années que je porte parole. Moi, j'aime mieux un ministre ou une ministre, puis je dis pas ça pour Mme McCann, pour tous les autres que j'ai eus depuis 20 ans. Arrêtez de dire n'importe quoi. Faites-les.
Ouais, c'est ça.
Quand vous allez le faire, là, vous n'avez pas besoin de dire que vous allez le faire. Faites-les. Et c'est ça que je reproche souvent. Puis je comprends que les politiciens, tu sais, veulent que tout paraisse bien. Puis c'est correct, là. Mais je suis tanné d'entendre, on va le faire, puis on va lui dire, puis les aînés sont importants pour nous autres. C'est pas ça que les faits rapportent. Faites-les, là, puis arrêtez de prêcher. Faites-les. Je vais être assez content d'un ministre ou d'une ministre qui va enfin faire ça, parce que sur le terrain, malgré le fait qu'on dise, on va envoyer bien du monde, il y a bien des places qui les cherchent encore, tu sais. Alors, je comprends, mais nous, on n'est pas en politique. Un peu comme vous, on dit les choses comme elles se passent. Puis des fois, les politiciens n'aiment pas ça, puis je comprends. Mais on fera pas de la plaventrice parce que M. Legault a 45 ou 50 % d'appui dans la population. On n'a jamais fait ça. L'œuvre de mon frère, c'est mon frère qui a fondé ça, c'est de dire les affaires qui marchent pas. Et on s'est occupé, on a commencé à s'occuper des vieux et des CHSLD le 2 avril. Alors que depuis février, on savait qu'en Chine, en Italie, c'était là qu'était le pire foyer de contagion. Et quand j'ai demandé le 18 mars au ministère qu'on envoie de la détection, on m'a dit, on n'a pas le temps de faire ça, Paul. Ben là, on va prendre le temps. On n'a pas le choix, on est dans le trouble.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est correct, là, je veux dire, on fait ce qu'on peut, puis on envoie des équipes, mais c'est un petit peu tard. Mais je sais qu'on est bien intentionné. Enfin, on n'a pas fait exprès. Mais tu sais, si on est capable d'envoyer des infirmières dans la rue, tester tout le monde, qui même dans son automobile, je ne sais pas si vous avez ça à Québec, on teste le monde dans le char. Et on n'a pas eu le temps d'envoyer du monde tester les patients puis le personnel de la CHSLD. Ça fait un peu de peine.
Je veux pas tomber dans la philosophie politique, Maître Brunet, mais en général, quand les politiciens veulent hésitent à se mettre les mains dans papa, c'est parce qu'ils veulent pas se salir. Souvent, par exemple, je vais donner l'exemple de la DPJ. Ça a pris un temps fou avant qu'on décide de faire une espèce de commission d'enquête publique comme ça, là, avec Mme Laurent. Parce que y a comme on a comme une crainte d'ébranler un système, puis on se dit tout le temps, là, sur le plan politique, c'est-tu payant ou ça va me coûter? Ou qu'est-ce qui fait peur aux politiciens quand vient le temps d'aller se mettre les deux mains dans papa en ce qui concerne les soins des personnes âgées?
Faudrait le demander à des ex-politiciens. Nous, on fait pas de politique. Mais ce que je soupçonne, le politicien, là, en théorie, va être élu. Hein? Alors, il faut qu'il s'arrange pour que ça paraisse bien d'ici aux prochaines élections. Pas trop se mettre dans le trou, mais avancer un petit peu. Puis c'est ça, la politique. Je la comprends, je la respecte. Mais nous, on fait pas de politique. Nous, on va brasser. Puis si, depuis au moins 5 ans, sinon plus on réclame, plus de monde dans le CHSLD, la CAQ l'a fait pareil. M. Paradis a déchiré sa chemise tellement que c'était important pour lui. Mais on commence à embaucher du monde puis à promouvoir la job de préposé dans les CHSLD comme étant, je suis d'accord avec ça, une des plus belles jobs que tu puisses faire pour te motiver puis te rendre la vie gratifiante. On commence à le faire puis on a haussé les salaires des préposés en plein milieu de la crise alors que ça fait au moins 1 an et demi que la CAQ a promis qu'elle le ferait. Fait que là, on garoche toutes sortes d'affaires parce qu'on est pressé puis on veut faire bien faire les choses, puis c'est correct. Mais quand tu fais ça à la hâte, t'essaieras de recruter du monde présentement pour travailler dans les CHSLD. Il n'y a pas grand monde qui va vouloir y aller. Non, il tord un peu.
Bon, il demeure que peut-être la seule bonne nouvelle hier, c'est que effectivement les primes que le gouvernement avait annoncées au début de la crise vont rester. Le PM l'a confirmé, là, il peut plus reculer. Là. Les primes qui ont été annoncées pour les gens qui travaillent dans les résidences vont rester. C'est peut-être la seule bonne nouvelle qu'il y avait hier. Une question peut-être un peu technique, mais qui me fatigue, moi, depuis hier. Là. Le CHSLD Heron, c'est un CHSLD privé conventionné.
Non conventionné.
Non conventionné. Là, c'est quoi les... C'est ça que je veux comprendre.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi, ça? Puis c'est quoi la différence entre un CHSLD public, puis conventionné, puis une résidence privée? Puis...
Le CHSLD public est financé, opéré et propriété de l'État. Le CHSLD privé, il n'y a pas de subvention, il opère, c'est un business. Okay. Le CHSLD privé conventionné, il reçoit un montant pour chaque lit qu'il obtient et il est soumis aux mêmes règles que sont celles des CHSLD publics. Mais le privé, lui, il est vraiment seul dans son monde et il fait ses affaires. Mais le ministère a l'autorité et c'est ce qui s'était passé en 2017 avec la protectrice et un peu plus tard, en 2019, avec une visite ministérielle. On a l'autorité pour y aller. Sauf qu'on est allé un peu tard, ou en tout cas, si on est allé, on n'a pas suivi ou on n'a pas exigé. On n'a pas exigé que ce soit suivi. Je me souviens, Mme Vien, avec son projet de loi sur la certification des résidences privées, tu sais, elle était bien contente. Je dis, Mme Vien, si vous ne mettez pas plus de monde sur la route pour aller voir ce qui se passe, votre certificat, c'est un leurre. Vous allez vous faire à croire que tout va bien, mais il faut surveiller, il faut retourner voir puis s'assurer. C'est ça qu'on a de la misère à faire parce que ça prend du monde pour faire ça.
Mais d'ailleurs, M. Brunet, pourquoi ça a pris... Bon, c'est 12 jours, là, mais 12 jours pour moi dans des situations comme celle-là, dans les conditions qu'on nous a décrites, ça me paraît interminable. On dit que la situation a commencé, on a été informé du côté du CIUSSS à la fin du mois de mars, et puis là, on a pu agir seulement... Hier, c'est hier, ben avant-hier là, plutôt là, que le premier ministre a réussi à avoir les documents. Qu'est-ce qui fait que ça prend 12 jours pour qu'on soit au courant d'une situation comme celle-là, qu'on puisse entrer une fois que le propriétaire d'abord nous a dit non, ce qui est inacceptable, mais pourquoi ça prend autant de temps?
Je pense qu'on est allé chercher une ordonnance. Hein? On est allé devant un juge. Hein? On n'avait pas le choix.
Mais il n'y a pas d'autre moyen que ça. Pourtant, il me semble que le CIUS avait une entente avec le CHSLD et était redevable.
Oui, mais pour exiger et passer outre le refus du propriétaire, il faut peut-être chercher un accord d'un juge. Et c'est ça, apparemment, qui a pris quelques jours à obtenir, monter le dossier, puis aller devant le juge d'urgence pour sortir une ordonnance de sauvegarde et aller chercher ce dont on avait besoin. Et je pense que c'est ça qui a pris le temps que les gens ont pris.
Je pense pas que le moment... Bon, là, on est le lendemain matin de cette annonce-là. Il y a des gens qui sont décédés. Il y a une enquête. Je pense pas que le moment est de blâmer les tu sais, d'essayer de... Ben, il y a les propriétaires, évidemment, qu'on soupçonne d'être en forte partie responsables. Il y a l'État. Mais je vois des commentaires qui reviennent souvent qui concernent les familles, les travailleurs. On dit, comment ça que les familles étaient pas au courant? Comment ça que les travailleurs ont pas dénoncé? Je veux pas blâmer personne, mais c'est quoi, Maître Brunet, le rôle de la famille puis le rôle des travailleurs dans un centre où on peut constater des fois ou simplement avoir des doutes sur la qualité des soins?
Oui, bien, tu sais, les familles étaient empêchées d'y aller depuis la mi-mars.
Oui, mais on entend que les soins étaient déficients depuis quand même un bout de temps, là. La protectrice du citoyen dénonçait en 2017. Encore là, je suis vraiment zéro dans le blâme, c'est juste le rôle de la famille, c'est quoi? C'est quoi les ressources, par exemple, que la famille peut avoir ou que les travailleurs peuvent avoir s'ils veulent dénoncer quelque chose?
La famille peut se plaindre à la direction, elle peut se plaindre aux autorités sur le plancher, elle peut faire une plainte au protecteur du citoyen, elle peut nous appeler aussi, mais souvent, le réflexe de la famille, c'est de dire, écoute, j'ai autant pas parlé, je veux pas que ma mère en souffre,
parce que
souvent, on a peur des représailles, souvent, c'est faux. On a faussement peur, mais des fois, on a raison d'avoir peur parce que c'est arrivé que quand on s'est plaint pour notre personne âgée ou notre personne hébergée, c'est celle-ci qui en a payé le prix. Alors, les gens, en général, aiment mieux taire, puis pas trop se plaindre, puis faire attention. Puis souvent, ça va être la personne hébergée elle-même qui va dire « Hey, bon, c'est pas de trouble, moi, je veux pas de trouble ici. » Fait que c'est toujours délicat, et c'est pour ça qu'on dit « Sortez votre plainte de l'établissement, puis faites affaire avec nous. Nous, on va foncer dans le tas. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais quand les recommandations d'un rapport de la protectrice et d'un rapport d'inspection ministérielle sont même pas suivies, c'est sûr que c'est un délinquant pas mal extrême.
Ça marche comment qu'il y ait une inspection dans une résidence? Parce que, monsieur, la ministre des Aînés, Marguerite Blais, disait avoir visité une centaine de résidences, puis qu'il y avait des inspections, il y aurait plus d'inspections qui seraient faites. Est-ce que c'est le genre d'affaires où on débarque à l'improviste, puis vraiment on fait de vraies inspections, ou comme ça se voit aussi dans d'autres domaines, on annonce une semaine ou deux à l'avance, puis on laisse le temps à tout le monde de tout mettre douette avant d'aller vérifier?
C'est monsieur Couillard qui a parti des inspections ministérielles en 2003. Quand le DG de Saint-Charles-Borromée, un CHSL à Montréal, s'était suicidé. Mm-hmm. Puis il y avait des grosses lacunes. On a fait partie de ces équipes-là, on en fait partie depuis ce temps-là. Mais dans ce temps-là, on arrivait à l'improviste. On posait les questions qu'on voulait, on parlait à tout le monde. Aujourd'hui, c'est très encadré. Ça, c'est M. Barrette qui avait restreint ça. Il aimait la transparence. Alors, t'as plus le droit de faire ci, t'as plus le droit de faire ça, faut pas que tu parles à un, faut pas que tu parles à l'autre, puis pas de commentaires sur ceci, t'as une grille, puis suis ta grille, sinon ça va aller mal. C'est plus les inspections ministérielles qu'on a connues dans le temps, que M. Couillard avait lancé à l'époque, c'est M. Barrette qui les a restreints de beaucoup. On peut plus faire grand-chose, on peut faire certaines choses. C'est pas qu'on peut pas faire certaines choses, mais on est très encadré, puis c'est très sévère, puis si tu parles à un que t'es pas supposé de parler, tu vas te faire chicaner, ou tu vas te faire exclure.
La solution vient peut-être en partie de là. C'est-à-dire qu'éventuellement, si on était capable de faire des vraies inspections, on serait capable de constater les vraies lacunes puis les régler,
Bien, comme Marguerite fait, Marguerite, à part, elle regarde un CHSLD, puis elle voit, puis elle parle à ceux qu'elle veut. C'est ça qu'on faisait dans le temps. Il faudrait qu'on rétablisse ça. C'est un bon point. Je ne suis pas certain si je l'ai dit. J'ai dit beaucoup de choses à Mme Blais, mais c'est un bon point. Je vais lui rappeler qu'on devrait revenir aux anciennes inspections. Mais encore là, tu vas avoir un blocage de l'administration. Eux autres, ils étaient contre. Eux autres, ils étaient contre les inspections en général. Et nous autres, là, à tous les ans, il y a une entreprise canadienne qui vient faire notre inspection. Mais tu sais, c'est pas de l'inspection. On sait pas ce que ça sent, ces unités. On voit pas ce que le monde mange. Dans la documentation. Ils appellent ça l'agrément Canada. Mais l'agrément, c'est très bureaucratique. Et nous, on a toujours favorisé et appuyé une inspection sur le terrain. Merci. On veut savoir qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte, puis qu'est-ce qu'on entend sur le plancher, puis on veut voir comment le monde vit. C'est ça, une vraie inspection. Et si tu fais pas ça, là, tous tes beaux papiers, là, excuse-moi, c'est de la bullshit.
Ah oui. Merci, Maître Brunet, pour votre temps aujourd'hui.
Merci à vous.
Bonne journée. Maître Paul Brunet, président du Comité pour la protection des malades. On aura quand même réussi, au fil de la discussion avec M. Brunet, puis à force de parler de cette histoire épouvantable-là au CHSLD Heron, on est en mesure d'identifier quand même une part de responsabilité. Évidemment, je veux pas rendre personne cynique plus qu'il faut, parce que on est tellement habitué de se faire dire « Ah ouais, mais les rapports se perdent à quelque part, puis la communication se fait pas à quelque part, puis bon, que ça, c'est enrageant entre vous puis moi. » Mais au niveau des inspections, par exemple, on commence à avoir une bonne idée de ce qu'on pourrait faire. C'est peut-être... Le positif là-dedans, commence à avoir le spectre d'une idée de ce qu'on pourrait faire pour essayer d'éviter. J'aime ça quand M. Brunet dit, l'important quand tu fais une inspection, c'est de débarquer là, savoir ce que ça sent, ce que ça goûte.
Ben oui.
Ça a l'air terre-à-terre, presque infantilisant, c'est pas ça. C'est parce que quand tu demandes à des gens, OK, rends-moi compte de qu'est-ce que vous mangez, le menu, parfait. On s'en sac-tu du menu? C'est pas ça qui est important. C'est pas ça une inspection. Tu vas pas inspecter quelque chose puis t'avertis deux semaines d'avance.
Non, non, en plus.
Pas comme ça que ça marche.
Non, non. Faut que ce soit un improviste.
Hey, je travaille dans un bar. Penses-tu que la police y appelait puis le MAPAC appelle avant pour aller voir si tout est correct? Penses-tu que la police y appelait avant pour dire là, on s'en vient compter, voir si vous respectez votre permis, machin?
Mm-hmm.
Ben non. Il débarque, c'est tout. Hey, on s'en vient, on va faire une descente. Pas même ça marche, là. Mm. C'est un bar. Là, t'as des personnes qui vivent dans ces résidences-là. Là. C'est leur milieu de vie. Pas ouais, juste, hey, c'est le fun, on part au chalet deux semaines, là, puis le chalet, finalement, il sent pas bon. Là.
Tu sais-tu ce qui est décourageant encore plus? C'est que c'est. Je te dirais pas que c'est généralisé, là, mais depuis le début de la crise, entre autres, parce que ça a soulevé bien des points sur les CHSLD, là, mais c'est pas le premier CHSLD où tu entends des points d'interrogation. Puis en plus, là, on commence à entendre des trucs qui se passeraient du côté de la salle où il y a les familles, des résidents auraient de la misère à entrer en communication avec les propriétaires qui veulent pas nécessairement revenir, puis donner de retour, puis donner plus de détails. Là. Parce que, ben, regarde, moi, c'est ce qui me décourage le plus quand tu vois qu'il y en a plusieurs. Puis là, les CHSLD, c'est pas, c'est un des milieux qui est le plus touché en plus par la crise. Puis combien d'exemples on a eu dans les dernières années, c'est rien pour être encourageant. Là.
Courte pause, on revient après ça. Le Québec.